France Culture.
Les nuits de France Culture.
Rigueur, détermination, éthique de travail exceptionnelle. Voilà quelques-unes des qualités que l'on prête à Jean Lursa, peintre, céramiste et surtout sauveur de la tapisserie française. Si l'on en restait à ces quelques qualificatifs, on se ferait une image bien sobre et sérieuse de l'artiste derrière le champ du monde. Après tout, qui d'autre peut se targuer d'avoir fait revivre presque à lui seul un art en perdition ? Passionné non seulement d'art, mais aussi de technique, d'artisanat, Jean Lursa est pourtant aussi un personnage drôle, extrêmement charismatique, un beau parleur autant qu'un meneur d'hommes. Dans ce numéro de « Qu'avez-vous fait de votre vie ?» de Pierre Loiselet, c'est avec humour et passion que Jean Lursa raconte son singulier parcours, répondant aux questions d'Abel Jacquin et Simone Didier. Celui qui se définit comme un glouton, un bon vivant, mais aussi un amoureux de l'ordre, allant jusqu'à dire « je suis le contraire d'un anarchiste », se livre ici avec joie à l'exercice périlleux de faire de sa propre vie un récit. De ses débuts aux côtés de Victor Prouvé, à son déménagement à Aubusson, de son voyage en Chine, à son projet d'instaurer une vraie politique publique de l'art, Jean Lursa, dans toute sa splendeur, c'est tout de suite, dans une émission diffusée pour la première fois le 6 juin 1962, sur la chaîne parisienne.
Veuillez écouter Jean Lursa, qu'avez-vous fait de votre vie ?
La vie, c'est une toute petite chose qui va, qui vient, qui va. Faire un tour où elle était gosse et voir si sa jeunesse à elle est toujours là. Dès qu'arrive le temps des vacances, le mois des récompenses, elle me prend par le bras.
La vie, c'est comme les vacances, joyeux quand ça commence et moins quand ça s'en va.
Une émission de Pierre Loiselet, animée par Simone Didier, Abel Jacquin et l'auteur. Réalisation, Paul Ventre.
Je crois qu'il y aurait mieux à faire que de présenter nous-mêmes notre hôte de ce soir.
Ah, vous avez déjà un projet ?
Oui. On pourrait faire appel à nos souvenirs et à quelques hommes célèbres, non ?
Ah ben, on pourrait, mais faire appel à qui ?
Oh bien, René Huyg, par exemple, Pierre Segers et puis Jean Marcenac, ça irait ?
D'accord. Et vous commencez ?
Ah non, c'est vous.
Ah bon, merci, ça. Je commencerai donc avec ces lignes de René Huyg. Lursa, c'est la tapisserie, la renaissance de la tapisserie. C'est depuis 10 ans... le principal événement de l'art contemporain. Les tapisseries de Lursa sont là, à mûrir paisiblement l'art moderne comme des pampres qui se chauffent au soleil, à des soleils familiers tombés du zodiaque pour rouler sous des tables. Voici la vendange, le jeu plastique des lignes, décrites à grandes courbes, comme la trace du balai de sa main, le jeu des couleurs qu'il a réduites au nombre des planètes. Harmonie, cadences et rythmes. Le mystère de ce qui, par-delà la logique accoutumée, va retrouver l'atavisme des symboles inconscients. Et le réel, enfin, lavé, racheté de ses platitudes, évadé du réalisme, le réel s'élevant jusqu'à la plastique et descendant aux profondeurs de la poésie. Fenêtres ouvertes, tables, poissons, coques, perdrix, feuilles, grappes ou planètes, alphabet coutumier, et magique de l'univers. Ce n'est plus l'héritage fructifié du cubisme et du surréalisme. C'est par-delà le sel des plus vieilles traditions, la familiarité surnaturelle du Moyen-Âge qui lui aussi savait d'une branche enroulée autour d'un chapiteau et d'un zodiaque évoqué au portail susciter le monde du végétal à l'astre. L'atelier cesse d'être l'antre du génie replié dans les ombres de son moi. Il retrouve son sens artisanal. L'œuvre se veut une origine, mais aussi une destination plus ample, l'audience d'une foule. L'œuvre d'art, à l'étroit désormais dans le cabinet d'amateurs, veut une salle et sa paroi. Les tapisseries de Lursa la couvrent et lui doivent sa richesse.
Après ces propos de René Huyg, il me semble, Simone, que vous pourriez prêter votre voix à Pierre Segers.
Bien, voici ce qu'il écrit. Que l'URSA soit le premier de nos tapissiers, c'est évident, par les dates et par le génie. À quoi bon répéter ce qui s'est dit à ce propos? L'URSA a fait de la tapisserie un art autonome. Jamais depuis 2 siècles les murs n'avaient ainsi parlé. Grâce à lui, les hommes et les bêtes sont devenus un paradis coloré, une joie profonde et chaude indéfiniment renouvelée. Il a dressé devant nos yeux des rêves en couleur, et ces rêves, nous nous sommes aperçus qu'ils étaient notre réalité en marche. Il a donné au poète sa voix si mystérieuse et si diverse que le moindre mot faisait naître sur les murs un mouvement d'onde, un chant, un cœur d'une extraordinaire nouveauté. Nous avons assisté au développement d'un langage qu'un artiste tirait entièrement de son propre fond pour l'imposer. Il nous a fait entrer dans un univers de plantes et de soleil, dans une magistrale symphonie de couleurs et de lignes, dans un royaume de l'homme où les chiens de la nuit devenaient, aux lumières de l'aube, des monstres dérisoires.
Abel Jacquin, à votre tour de compléter le portrait de Jean Lursa par quelques lignes...
empruntées à Jean Marcenac.
D'accord.
Voici. Pour atteindre cette hauteur qui est celle du maître d'Aubusson, il ne fallait pas seulement connaître d'anciens secrets de fabrication. Il fallait être possesseur, enfin, de son propre secret, guéri de ses propres blessures. Il fallait, par-delà le mural, arriver au moral. Jean Lursa n'est point Jean Lursa par quelque illumination soudaine, quelque coup de foudre de la grâce en art, quelque mutation brusque qui a pu faire du peintre un cartonnier. Il est Jean Lursa parce qu'il a été avec patience, avec courage, avec une bouleversante honnêteté intellectuelle, Jean Lursa, acteur et témoin de la reconquête de l'homme par l'homme. Et tout était nécessaire, les rêves et les illusions de la jeunesse, la solitude devant le monde et, dans le monde, la fureur, le désespoir, le dégoût du réel, la fatigue, tout, pour que s'ouvre aujourd'hui la corne d'abondance qui verse sur les murs ce don palpitant d'oiseaux et de famille, ce trésor de réalité et de beauté.
Il serait peut-être temps de donner la parole à notre invité, non?
Jean Lursa, qu'avez-vous fait de votre vie?
Mon Dieu, quelle question! Et surtout après ce grand prêche, qui pour un peu me donnerait envie de rentrer sous terre. Mon cher monsieur, je ne suis par chance pas encore à l'heure des bilans. Et puis vous êtes bien vorace, car votre question, c'est bien le genre de question qui fait perdre le souffle à un homme. Eh bien, puisque vous êtes mes lions dévorants, vous et vos deux amis, voilà une peinture de définition. En somme, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai fait, en somme de ma vie, un certain entassement d'efforts. D'efforts dans le travail, tout d'abord. Et puis, ensuite, et c'est au moins aussi important, une somme d'efforts vers la compréhension de mes semblables. J'ai tenté, en résumé, d'être un homme et de comprendre en homme lié à tous les hommes par des liens indissolubles. Ce sont des efforts pénibles, il faut en convenir, parfois ingrats, mais toujours chauds et brûlants, et surtout haletants, ces liens qu'on a avec les hommes. Est-ce que c'est assez vous dire?
Ah, mal oui.
De quel pays êtes-vous originaire?
Je lis dans vos yeux. Ne vous faites pas d'illusions ce que vous pensez intérieurement, parce que vous savez que je suis né à Bruyères-Vosges. Et vous vous dites tous que je n'ai certainement pas la complexion d'un demi-montagnard vosgien. Je suis d'accord sur ce point. Je n'ai pas la complexion d'un demi-montagnard. Pas encore, tout au moins. Mais j'ai le droit de le dire. Je suis, en dernière analyse, un corneau. Je suis demi-vosgien par ma mère. Je suis demi-bourguignon par mon père, avec en plus du côté paternel un arrière-pays de Castille et d'Estramadour, l'Urca, l'Orca, etc. Nous avons un jour débarqué en France, je ne sais dans quelles circonstances d'ailleurs, nous avons débarqué d'Espagne. Juan Gris me disait un jour qu'il connaissait un village en Espagne où le forgeron, le curé, la sage-femme et le carabinier, c'étaient tous des Lurca, pas l'Ursa, des Lurca. Eh bien, j'ai décidé, je ferai un jour l'Espagne à pied pour leur trouver ce dernier village. Et alors on s'expliquera, je saurai au moins de qui je suis, ou le bâtard, ou le légitime.
Et quelle profession exerçaient vos parents?
Postier, mesdames et messieurs. Petit-fils de postier du côté paternel et du côté maternel, oui. Tenez-vous bien à la rampe, j'étais petit-fils, et je ne plaisante pas, petit-fils de capitaine aux oies pontificaux.
Oh, donc.
Pas plus, pas moins. Il a fallu de gros et de grands malheurs, vous le devinez, pour me faire briser la tradition. Redevenir civil, sans bicorne, sans chéchia, sans épée. À moins qu'un jour, on ne sait jamais, vous me retrouviez au détour d'un boulevard, aquarelliste du Saint-Siège.
Avez-vous des souvenirs d'enfance amusants?
Non, je n'ai pas de souvenirs amusants. On nous abrutissait de travail au collège. J'ai été élevé au collège de Bruyères tout d'abord et d'Épinal ensuite. J'avais cependant, jusque l'âge de 8 ans, vécu à Paris avec mes parents, cela va sans dire. Je ne suis pas né, j'ai été conçu rue de Pontauchaux. Une rue étroite qui débouche sur le boulevard des Filles du Calvaire. C'est là quand même des rues beaucoup plus amusantes, singulièrement plus piquantes que la rue Thiers ou que la rue Poincaré. Excusez-moi, je n'apprécie pas beaucoup les hommes à barbichette et les ventes à brioche. Ceci d'ailleurs devant être compris, cela va sans dire, dans le sens que vous imaginez.
Est-ce que votre adolescence, vos études ont posé des problèmes?
Oui, notre éducation à mon frère et à moi a posé des problèmes à mes parents. Un commis des postes, ça ne gagne pas, évidemment, des mille et des cents. Et ça n'en gagnait pas, à ce moment-là, encore plus des mille et des cents. Ils ont dû mettre, par conséquent, ces pauvres parents, beaucoup du leur. Et quand, en ce qui me concerne, mes deux bachots passés, et étant déjà engagé depuis quelques mois dans les voies de la médecine, j'ai annoncé à la maison que, décidément, non, la médecine va te faire foutre. Je voulais devenir ouvrier sculpteur sur façade. Ça a fait couler quelques larmes, vous l'imaginez, et je me rappelle toujours la réflexion de ma mère, avoir fait toi, mon Jean, un bachelier, et maintenant te voir devenir ouvrier. Par chance, le fond était bon chez père et mère, et les larmes n'ont duré qu'un jour, en fait. Et le lendemain, tout dans la famille s'était harmonisé. On m'a expédié à Nancy, élève de Victor Prouvé. C'était un homme, c'est un sculpteur, un peintre, pour ceux qui l'ignorent, un homme admirable, bon, droit, propre et costaud. Je ne saurais jamais assez dire combien je dois à cet homme.
Autre chose, dites-moi, nous assistons, je crois, actuellement, à une véritable renaissance de la tapisserie française.
Il y a incontestablement, en ce moment, une renaissance de la tapisserie française. Il y a actuellement dans le monde, je m'excuse, il faut que je reprenne les choses au début pour que tout soit clair et que tout apparaisse ayant des racines. Il y a actuellement dans le monde une totale, une très évidente, sinon une immense mutation en route. Cette mutation, touchant tous les secteurs de la vie économique, de la vie sociale, de la vie physique, de la vie psychologique donc, ne peut avoir que d'immenses retentissements sur la vie spirituelle et, par conséquent, sur le comportement artistique. On peut constater partout, aussi bien dans les villes que dans les campagnes, tout au moins en Europe, une immense curiosité pour l'œuvre d'art, et qu'elle soit sculptée, qu'elle soit gravée, et il faut, par les moyens les plus simples et les plus directs, que cette œuvre d'art soit visible, soit palpable, atteigne les plus simples. Ce qui est à dire que la collection particulière, comme tous les autres secteurs de la vie, va subir de grands bouleversements, et que la société ne se contentera plus de collections particulières. Il faudra qu'elle trouve l'œuvre d'art en allant payer ses impôts, si vous voulez.
Ah, ça serait bien, ça.
En allant payer ses impôts.
Vous êtes un masochiste, de voir l'œuvre d'art en même temps.
Je n'en dis pas autant que vous, je ne veux pas vous chercher des querelles, vraiment. En allant faire soigner son gosse à l'hôpital du quartier, ou sur les murs de lycée, ou dans les mureaux et dans les boulevards. Et, par conséquent, il y a, comme il y a dans toutes les nations, en somme, jusqu'ici, tout au moins d'Europe, je vous l'ai dit, ce besoin d'atteindre un moyen d'expression qui soit perceptible à tous, qui soit atteignable à tous, qu'on ne soit pas obligé de se sonner chez M. de Rothschild pour voir un Mignard ou pour voir un Delacroix, etc. Tous les peuples se sont mis à faire de la tapisserie murale, qui est un art éminemment collectif, disons.
Bon, mais pour vous-même, est-ce que la tapisserie offre aux peintres les mêmes ressources que la peinture de chevalet?
Monsieur, vous allez me permettre de vous répondre que si la peinture de chevalet offrait les mêmes ressources que la tapisserie, je n'aurais pas abandonné, ou presque, l'une, la peinture à l'huile, pour pratiquer l'autre, la tapisserie. la fresque tissée, en réalité. Mais il y a, à mon sens, un côté plus humain, plus dégagé d'éthique, des manies, des orgueils, des vanités, etc. Et parfois même des mauvaises habitudes professionnelles. Quelque chose de plus dégagé des contingences financières qui m'a culbuté sur la peinture murale et, par conséquent, fait lâcher ou presque lâcher la peinture de chevalet. Et puis, il faut bien le dire, c'est une faiblesse, peut-être, de mon caractère. J'aime les grandes dimensions.
À moins que ce ne soit une force.
Ah. Je me sens corseté, crevant de manque d'oxygène dans les petites dimensions du chevalet. De même que je me sentirais corseté, étouffé, si je ne pouvais lâcher tout d'un coup les perspectives, soit de Paris, soit du Lot, soit de l'Europe même, je ne crains pas de leur dire. Écoutez, pour mieux m'expliquer, je vais vous en donner un exemple sur le plan, simplement géographique. Cet été, je passe mon mois de juin en Belgique et en Suisse. Je passe le mois de juillet au Dahomey. Je passe le mois d'août à parcourir l'Ukraine et le Caucase, et après, avec un tout petit arrêt à Rome, je vais boire de l'eau à Aix-en-Provence.
Eh bien, puisque vous courez le monde comme ça, est-ce que notre pays est le seul à connaître cette renaissance de cet art monumental qu'est la tapisserie?
Non, nous sommes, Dieu merci, loin d'être les seuls. La tapisserie est repartie depuis, 15 ans, souvent en plaisantant, je dis. Il n'y a plus qu'un pays où la tapisserie n'est pas repartie, c'est à Chypre. C'est vous dire. Pensez, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Hollande, en Autriche, en Suède, etc., n'est-ce pas? En Grèce. Hier, j'apprenais au Brésil. Il y a des ateliers maintenant au Brésil. Voilà des pays où maintenant la tapisserie repart à plein gaz. Pourquoi? Simplement à cause de l'apparition et à cause du développement d'une architecture de même caractère, exigeant un caractère assez voisin, de mise en condition du lyrisme. Et ensuite, la chose est très importante, la tapisserie a été provoquée par l'apparition dans tous les continents d'une espèce de mise en commun. Certains diront, ceux qui sont plus politiques que nous le sommes, diront socialisation des biens, d'autres diront socialisation des services, et d'autres diront des nationalisations. En bref, je cherche à mieux m'expliquer. Cette mise en commun sous autorité, très souvent très concentrée, autorité d'État, n'est pas autorité d'énormes organismes économiques. Par exemple, des écoles en France, les écoles sont d'État. Oui. En Suisse, elles sont d'État. En Belgique, en Angleterre, elles sont d'État. Des banques. Les banques commencent déjà chez nous à être presque tous banques d'État. Les chemins de fer. Dans les trois quarts des pays, maintenant, les chemins de fer sont nationalisés, comme chez nous, etc., etc. Et tout ceci, cette espèce de climat dans lequel nous vivons, en fait, n'est-ce pas ? Et souvent, sans en prendre conscience. Je suis sûr que mon observation-là va surprendre pas mal de mes auditeurs. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils vivent dans ce climat, ils ne le savent pas. Cette espèce de climat a fait que les artistes ont été amenés à chercher un débouché qui dépasse le plan de la collection privée, ce qu'on appelle du cabinet d'amateurs, dans lequel il est difficile d'entrer ou pour lequel il faut faire des ronds de jambes pour pénétrer, etc. Et ces artistes ont été amenés à chercher un débouché plus large, vous comprenez, plus public, pour arriver à l'audience la plus large possible.
Et dans votre ouvrage « Tapisserie française », vous dites que l'œuvre peut ne se sentir enfin vivante que sustentée par les rapports qu'elle entretient avec un ensemble préexistant, prééminent.
Oui, c'est une maladie d'ailleurs qui date de jeunesse. On m'appelait le moraliste au collège, c'est tout vous dire. Ça m'amusait pas toujours, mais enfin, on m'appelait le moraliste. Je ne crois à l'ampleur du comportement d'un être humain que lorsqu'il insère ses efforts, voire même son éthique, enfin, sa morale, sa dignité par conséquent, dans un cadre qui le dépasse et qui le dépasse largement. Je suis le contraire d'un anarchiste, en d'autres termes. C'est là un sentiment de dépassement par la profession que connaît fort bien le docteur ou que connaissent éminemment les savants pour lesquels j'ai infiniment plus de respect que devant tous ces ténors et toutes ces petites cocottes que sont les trois quarts du temps les artistes et les écrivains. Que connaît aussi le missionnaire, qui soit laïque ou religieux. N'est-ce pas ? Ces êtres-là dont je parle, docteurs, savants, etc., sont des hommes qui se dépassent, qui, en se dépassant, se gonflent, si j'ose dire, et se multiplient. Eh bien, je subis ce besoin. Et c'est en somme un aveu, je suis un vorace, je suis une espèce de glouton.
Je vais vous poser une question qui vous fera probablement sourire. Est-ce qu'on peut s'improviser tapissier ?
Non, on ne s'improvise que dans des circonstances strictement exceptionnelles. Je vais vous donner un exemple venu du Lot. Murat, le prince Murat, et si je me trompe, le roi, hein, il a été roi. Oui. Murat est valet de ferme vers, disons, 1770 dans le Lot. Il devient, dans une atmosphère de grand bouleversement, c'est-à-dire de révolution française, il devient capitaine, puis commandant, général, prince et roi. Vous êtes certain de la chose, vous me le garantissez.
Oui, à peu près, quoi.
Dans ce même Lot, au comité de libération, en 1944, et dans une même atmosphère d'effervescence, de révolution presque, en tout cas de libération, de lyrisme par conséquent, je suis nommé par mes camarades du comité de libération, responsable de la presse et des services postaux. Oui, PTT.
Eh bien, dites donc.
Vous avez donc devant vous, mon cher monsieur, l'ancien ministre des postes, télégraphes et téléphones du département du Lot, secteur Nord. Voilà ce que sécrètent les circonstances exceptionnelles. En circonstances habituelles, jamais je n'aurais été capable de devenir un ministre des postes.
Et non, parce que c'est dur. Mais je voudrais vous poser une autre question. Est-ce qu'on aide beaucoup les jeunes dans votre cœur?
Tout débute, à vrai dire, et quoi qu'on fasse, par une bonne intention. Mais il faut que ces bonnes intentions, toujours, si on veut aboutir à quelque chose de sérieux, d'architecturé, de musclé, tout doit être confirmé par un bon budget. Pour faire des missionnaires, par exemple, en tout cas c'était ainsi de mon temps, des missionnaires allant convertir en 1880 les petits Chinois au catholicisme, il fallait des séminaires pour former ces missionnaires. Et un séminaire, ça a à peu près comme toute chose, 3 repas par jour à assurer, et un calorifère à entretenir, c'est-à-dire un budget. Eh bien, en tapisserie, c'est exactement la même histoire que pour les missionnaires, ou que pour les professeurs de gymnastique, ou pour les élèves de polytechnique. Il faut des budgets. Si on aide les jeunes, et j'espère que la France le fera, la France aura dans 20 ans une école somptueuse de tapissiers. Tout d'abord, des ouvriers tapissiers, il faut donc former des apprentis et les entretenir, et ensuite de peintres cartonniers, et il faut les imposer et les épauler. Eh bien, c'est au pays, c'est à la France à assumer sa chance, et cette chance, il faut la nourrir, et comme nous disons dans nos campagnes, il faut fumer le terrain, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il faut savoir investir. C'est donc pour la France une question d'intelligence que d'investir à temps. L'intelligence, c'est curieux, mais l'intelligence, ça rapporte. Tandis que la pingrerie, c'est le chemin le plus direct et le plus sûr, et le plus efficace d'ailleurs, pour atteindre la ruine.
Dites-moi, et les moins jeunes, est-ce qu'on les aide?
Les moins jeunes, c'est-à-dire?
Oui. Les vieux.
Allez-y. Les vieux.
Ah, c'est gentil de votre part. Eh bien, oui, il faut souligner que la politique de l'administration française a été très ouverte pour la tapisserie. Mmh. N'est pas, l'administration française a fait, avant, disons, 39, avant la guerre, et là, comme il est plus immense, pataquès qu'on puisse imaginer. Pensez, on n'a pas pu faire entrer, avant peut-être 30, dans les musées de l'État Matisse. Il n'y avait pas, dans les musées, enfin les grands musées nationaux français, il n'y avait pas un Picasso. Oh. Pas. Il n'y avait à plus forte raison pas un Léger, pas un Matisse, pas un Braque, etc., etc. De telle sorte qu'au point de vue des musées nationaux et des grandes collections, qui sont en somme, si on réfléchit bien, pour un État et pour une société, d'abord une manifestation de tenue, de bonne manière, d'intelligence et d'investissement. Nous étions, au point de vue de ces musées, de splendides et d'adorables petits cocus. Depuis la Libération, il y a vraiment une équipe de jeunes, c'est-à-dire des gens de mon âge, nous nous sommes compris, n'est-ce pas, qui sont arrivés, en somme, à fleur d'eau, et qui ont pris en main l'administration générale française. Et à ce moment-là, la politique a complètement changé. Des hommes comme Cassou, etc. La politique est devenue infiniment plus ouverte, infiniment plus intelligente, c'est-à-dire infiniment plus française. Et on a commencé à faire entrer dans les musées tous ces hommes tellement vivants. On a été même les solliciter, comme la France est un pays, vous savez, qui n'a toujours pas beaucoup de sous. On a été leur demander d'en donner. Mais enfin, on a été quand même, on les a sollicités pour qu'ils en donnent. Et comme ils sont larges, parce que ce sont des gens bien, ben ils ont donné. De telle sorte qu'il est permis de dire que maintenant, nous avons une politique d'État au point de vue du remplissage, si j'ose dire, de nos musées, qui est devenue vivante et qui est devenue, en somme, cossue, vous comprenez, intelligente, n'est-ce pas? Au point de vue de la tapisserie, il y a eu à peu près le même phénomène qui s'est passé par une suite de circonstances qu'il serait trop long d'analyser actuellement. Mais enfin, il n'y a pas seulement que les tout jeunes qui se sont intéressés à la tapisserie, mais... Enfin, Braque fait de la tapisserie, Matisse en a fait, Léger, Picasso, Le Corbusier, Zadkine, Singier, Adam, Villon, Prassinos, etc., etc. J'en oublie, je m'en excuse. Mais enfin, vous voyez quand même que tout ce qu'il y a d'un peu sérieux en France a fait de la tapisserie. Ce qui a eu les répercussions que vous imaginez à l'étranger et qui a par conséquent a fourni une caution morale aux conservateurs de musées étrangers, aux historiens ou aux amateurs qui se sont dit, eh bien si tous ces messieurs tellement sérieux font de la tapisserie, c'est quand même le tricot, c'est une chose importante.
Vous avez fait un long séjour à Aubusson, je crois. Dans quelles circonstances et avec qui? Grand-mère, non?
Vous Grand-mère... entendez, madame, à réveiller de fameuses cicatrices. nous sommes arrivés avec grand-mère tous les deux à quelques jours d'intervalle, mais enfin, nous sommes arrivés quand même en 39, à deux ou trois jours après la déclaration de guerre. Moi, de mon côté, j'avais décidé, sans avoir encore reçu ma mission du ministère de l'Éducation nationale, j'avais décidé d'aller à Aubusson pour y faire continuer à mon fils ses études. Il y avait un collège, alors j'ai pu obtenir de l'inscrire là-dedans. Et je me suis dit, autant habiter à Aubusson pendant tous ces temps malheureux, et puis travailler plus près des ateliers, puisque je tenais quand même à toucher de près, qui est quelque chose de charnel, si vous voulez, avec tous ces ateliers, ces chefs d'atelier, les ouvriers, les patrons, petits patrons, parce que ce ne sont pas des grands patrons. La tapisserie, c'est le contraire de l'industrie, c'est un artisanat pur, n'est-ce pas? Et alors, mon Dieu, je suis parti là-bas, et en arrivant là-bas, j'ai trouvé un ordre de mission du ministère de l'Éducation nationale qui me disait, vous êtes chargé de mission, ainsi que votre ami grand-mère, et puis Dubreuil aussi, que je ne connaissais pas alors, mais enfin quand même, nous étions trois, et on nous a demandé de faire chacun quatre grandes tapisseries qui avaient comme sujet les quatre saisons, et que l'État, en somme, acquérerait, enfin commandait. Oui. Et au terme de la mission, il était entendu, et il était surtout stipulé, que nous devions prendre contact avec tout le personnel exécutant d'Aubusson pour tâcher de l'entraîner, de lui apprendre ce que c'était que Cézanne, que Dufy, que Braque ou que Corot, n'est-ce pas? Et c'était nécessaire, ne l'oubliez pas, même le nom. Et en même temps, nous, faire nos classes. Parce que pour faire de la tapisserie, il y a une technique. Eh bien, la technique, elle s'apprend par des ateliers. Moi, quand j'ai voulu apprendre le piano, quand j'étais jeune, j'ai pas été trouver le professeur de gymnastique du lycée. J'ai été trouver une pianiste. Eh bien, c'était ainsi, nous sommes allés là-bas, et l'administration s'est rendu compte, d'ailleurs, nous, si nous l'en rendions compte, que pour arriver à faire des tapissiers quand même un peu charnus, eh bien, il fallait que nous vivions des mois et des mois dans les ateliers à côté des ouvriers, et chacun s'intoxiquait. Les ouvriers nous apprenaient ce que c'était que le métier, et nous leur apprenions qu'il existait quand même des gens comme Dufy ou comme Picasso qui n'étaient pas des foufous et qui ne travaillaient pas pour les habitants de Chicago, ce qui était la légende alors, n'est-ce pas? Et que on avait qu'à regarder nos figures, nous étions des hommes sérieux, pour un peu, on avait des cales dans les mains, des ampoules, enfin, on était des travailleurs, etc. Les résultats ont été excellents. Parce que il y avait évidemment à Aubusson une atmosphère qui tient à toute guerre, n'est-ce pas, de tout est foutu, qu'est-ce qu'on deviendra, c'est la ruine, et puis les Allemands vont venir, et puis les Cosaques, et puis tout le fourbi, etc., n'est-ce pas. Et il fallait remonter ces gens, c'est-à-dire leur faire des piqûres de cacodylate de soude et leur faire boire de l'huile de foie de morue, n'est-ce pas. Eh bien, on leur en a foutu de l'huile de foie de morue. La preuve, c'est que l'enfant a grandi et que maintenant il est obèse. Et quand je dis obèse, je sais ce que je veux dire, il y a maintenant... Non seulement beaucoup plus d'apprentis qu'on y avait avant, les salaires sont les plus hauts du département, les ouvriers tapissiers, on vend plus de tapisseries qu'on en peut tisser, et maintenant la crise a changé, alors que c'était désespérance, chômage, ruine des chefs d'atelier, enfin, la Banque de France allait fermer à Aubusson, c'est tout vous dire. Bon. Et morale, maintenant, c'est la crise contraire, je vous disais, il n'y a plus assez de gens. Il n'y a plus assez de personnel d'exécutants. Et si on ne prend pas des mesures et d'une façon extrêmement rapide et énergique, nous serons obligés, nous, peintres français, de faire exécuter une bonne partie de nos œuvres dans des ateliers étrangers.
J'ai lu dans votre volume « Mes domaines » un poème, un très beau poème sur les coqs que nous ne pourrons pas dire devant ce micro, malheureusement. Mais je souhaiterais que vous nous racontiez votre rencontre avec un coq, justement, dans cette région du Lot, où vous abritiez votre exil en 1942.
Oh, écoutez, on a fait de moi l'homme qui ne fait que des coqs, etc. Sur 100 tapisseries, il y en a à peu près une où il y a des coqs. C'est toujours la même légende, n'est-ce pas? Quand un colonel qui a pris d'assaut Babylone et massacré toute la population, au lieu de le sacrer, le plus grand colonel des temps, on a constaté qu'il avait une loupe sur le nez, on l'appelle le colonel à la loupe. De même que dans Jeanne d'Arc, on ne voit plus qu'une bergère. Ça fait joli, ça fait image de première communion, ça fait image d'épinal et tout et tout. Bon, c'est très bien. Mais enfin, des coqs, évidemment, j'en ai rencontré partout, j'en ai même mangé dans mon existence. Je suis arrivé dans le Lot dans une circonstance un peu particulière. J'ai été obligé de quitter Aubusson à la suite de ces petits incidents scabreux qui se créent, se développent dans les temps d'occupation et par conséquent de résistance. Je ne vous en dis pas plus. En quelques heures, j'ai quitté Aubusson et j'ai cherché un asile quelque part. Je l'ai trouvé finalement dans le département du Lot. Et dans le département du Lot, après deux ou trois émigrations successives, je suis arrivé à Souillac. Souillac, c'est une ville qui se trouve entre Paris et Toulouse, vous le savez, peut-être, qui a une église superbe, qui a des gens fort bien, accueillants, gentils et cultivés, comme par exemple ce brave Betz, qui lui s'est occupé de défendre, et par la photographie et par les textes, la région, etc. Et je me suis installé là, dans une petite propriété qu'on m'a louée, qui s'appelait Villa Mona Lisa. On restait entre soi. Ursa habitait chez Léonard de Vinci, et c'était Léonard de Vinci qui était tellement heureux d'avoir enfin quelqu'un de sa taille. Et alors, il y avait dans cette villa un brave gars qui avait fait fortune, d'ailleurs, avec une meunerie, donc, et qui élevait de la volaille. Et il employait un terme d'ailleurs qui me touchait beaucoup, il ne disait jamais « je nourris la volaille, je l'alimente ». Il y avait un côté noble et grande famille qui m'a beaucoup touché, il me parle. Et il avait notamment toute une série de coqs. Et mon Dieu, je me suis mis à observer ces espèces d'animaux singuliers, qui sont beaux d'ailleurs comme des astres, qui sont très grands seigneurs. Il n'y a pas d'être plus délicat avec les dames qu'un coq. Un tout petit peu méprisant, parce qu'ils leur foutent des volets de temps en temps, aux dames. Et mon Dieu, c'est une façon de manifester notre supériorité à nous hommes qui, vous le savez, avec le lion, sommes les rois de la création. Oh. Et pas quand nous ne sommes pas les dindons de la farce. Et ceci fait, J'ai observé ces animaux, j'en ai dessiné quelquefois, etc. Et je me suis aperçu quand même que le coq, c'est un animal qui se lève le matin, c'est-à-dire qui fait lever le soleil. Parce qu'il ne faut pas supposer que c'est le soleil qui fait lever le coq. C'est l'inverse, monsieur. Croyez-en, une expérience de laboureur. Bon. Deuxièmement, c'est quand même un engendreur. Troisièmement, il a un costume superbe, enfin, comme un costume de grand cuirassier le jour où on défile place de la Concorde, n'est-ce pas? Il a des cuirasses, il a des épées, il a une trompette de pétard de Dieu, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Et le résultat est que, poétiquement, je suis arrivé à pénétrer, si vous voulez, le sens de cet animal, et que de plus en plus je l'ai introduit dans mes tapisseries, mais je vous dis à dose très homéopathique, oui. Puisqu'il y en a peut-être un sur 100.
Bien, mais alors, moi j'aimerais savoir si votre vie est davantage celle d'un Parisien, d'un paysan ou d'un nomade. C'est Paris ou Saint-Céré que vous habitez ?
Non, je n'habite pratiquement plus Paris. J'ai encore ma maison à Paris que mon frère m'a bâtie vers 1923, mais dans laquelle je ne mets pas les pieds 30 jours par an, en 5 ou 6 séjours, n'est-ce pas ? Et je vis surtout à Saint-Céré parce que, au point de vue du travail, pour la tapisserie murale, il faut d'immenses murs. Il faut quand même que je loge mes assistants. J'ai toujours 3-4 assistants avec moi, n'est-ce pas ? Et il faut surtout beaucoup de tranquillité. Et il faut éviter les coups de téléphone, et Dieu sait si à Paris on en subit, de telle sorte que lorsqu'on est à la campagne comme je le suis, quand il arrive un coup de téléphone dans la journée, je lève l'oreille, je dis « comme c'est passionnant un coup de téléphone ». Vous comprenez ? D'autre part, je suis à 12 km d'une gare, je suis au-dessus d'une colline, j'ai des fossés et des remparts, j'habite un vieux château fort du XIIIe siècle, etc. De telle sorte que pour arriver jusqu'à moi, c'est-à-dire jusqu'à me déranger dans mon travail, eh bien, mon Dieu, il faut beaucoup de chance, beaucoup d'audace et même beaucoup de toupet. Vous comprenez ? De telle sorte que j'ai pris le goût de la campagne, je m'y plais physiquement, je m'y plais moralement, et je ne la quitte guère que pour prendre l'avion, à vrai dire, très souvent, soit pour aller en Chine, soit pour aller en Amérique du Sud, soit pour aller aux Indes, soit pour aller des choses comme ça, c'est-à-dire pour, ce que disent les Espagnols très joliment, pour changer l'eau des olives, enfin, pour prendre l'air et connaître en somme ce cheptel qui est tellement passionnant, c'est-à-dire les hommes. Parce que qui s'enferme dans une campagne comme Saint-Céré où j'habite, ou dans une campagne comme Paris où tant d'hommes habitent, c'est quand même toujours, si on y reste 10 ans, ça devient un trou avec toutes les mauvaises habitudes du trou, les petites copineries, les petites hostilités, les petites ambitions et le même grenouillage.
En somme, vous courez le monde sans arrêt et vous avez des contacts avec tous les peuples et toutes les races, c'est bien ça.
Mais écoutez, maintenant le monde est tellement petit.
Y a-t-il un coin que vous préférez, un peuple que vous aimez particulièrement ?
Oh, un peuple, non. D'ailleurs, le peuple que je préfère, voulez-vous, c'est quand même le mien, parce que j'y ai toutes mes habitudes, vous comprenez. Mais c'est vrai, au fond. Qu'est-ce que c'est que ça, le sens national ? Le sens national, c'est le sens des habitudes. C'est une espèce de paresse, au fond. N'est-ce pas ? C'est un amour paresseux, si j'ose dire. N'est-ce pas ? Est-ce que je me fais bien comprendre ?
Oui, très bien.
On est à l'aise, on t'aime bien parce que tu es commode. C'est un peu comme ces femmes qui font tellement bien la cuisine que le mari se dit, décidément, c'est l'amour de ma vie, cette femme. Et en réalité, c'est la façon dont elle cuisine le bœuf bourguignon. Vous comprenez ? Bien. Mais par ailleurs, j'adore l'Espagne, par exemple, parce que je suis vaguement de sang. Enfin, il y a du sang espagnol qui, certainement, ou se balade ou se pavane dans mes veines. Bon. Tous les pays de la Méditerranée, d'ailleurs. Nous sommes quand même, nous tous qui sommes nés au sud de la Loire, enfin, nous sommes des Méditerranéens, et c'est là où il y a quand même le plus d'énergie, le plus de nervosité, et puis le plus de lumière. Ça compte beaucoup pour nous, la lumière. Mais enfin, il y a quand même tant de peuples adorables, n'est-ce pas ? Je sais combien j'ai été stupéfait et bouleversé par la gentillesse, la courtoisie et les grandes manières des peuples jaunes, que je ne connaissais pas encore il y a 10 ans, et maintenant, enfin, que je connais, puisque je suis allé passer un certain nombre de semaines en Chine, un certain nombre de semaines au Japon, n'est-ce pas ? Ce sont des peuples qui m'ont stupéfié. Ils ont des très grandes manières. Ils sont gentils, ils sont discrets, ils mangent légèrement. n'est-ce pas? Ils ont une grande culture derrière eux, etc. Et quand nous, nous regardons toujours le noir, le rouge ou le jaune avec des petits airs de blanc triomphant, de premier moutardier du pape, quand j'étais en Chine et que j'apprenais que ces gens-là avaient l'imprimerie peut-être 2000 ans ou 1000 ans tout au moins avant nous, eh bien je suis rentré dans ma coquille et je les saluais et je me disais, hein mon petit blanc, tu viens de recevoir une jolie leçon de modestie. Quand je me suis baladé aussi, enfin disons, au Brésil, voilà un peuple d'une courtoisie et d'une gentillesse très grande, une fois qu'il mangera sa faim, parce que c'est un problème là-bas encore de beefsteak, une fois qu'il mangera sa faim, mais il y aura une très grande civilisation qui va naître dans toute cette Amérique du Sud et cette Amérique centrale, n'est-ce pas?
Oui, oui.
Parce que les grandes civilisations, ça commence toujours par deux repas réguliers tous les jours. Sinon, il n'y a pas moyen. Si Michel-Ange n'avait pas mangé pendant 6 jours, de suite, il ne pouvait pas faire la sectine. Et ceux qui disent le contraire, ce sont des gens qui font des yeux blancs, qui se mentent, c'est-à-dire des albinos au point de vue intellectuel.
Mais, monsieur Lorsin, vous avez parlé du grand développement que prend actuellement la tapisserie. Et vous avez dit que la demande était plus importante que la production. Alors moi, je vous pose une question. Moi, j'ai toujours eu envie d'avoir chez moi une tapisserie de monsieur Lursa. Je n'ai jamais pu m'offrir, parce qu'une tapisserie possible, et c'est un million en tout cas.
Mais non.
Ah, écoutez.
Mais non, tout ça sont des légendes et c'est toujours la même histoire. La tapisserie coûte moins cher d'abord que la peinture.
Ça dépend de la peinture.
Déjà, comment?
Ça dépend de la peinture.
Si un peintre fait une tapisserie et que, disons, sa peinture vaille $1, bon, la peinture, le tableau vaut $1, eh bien, s'il fait de la tapisserie, ça coûte 75 cents. Voyez-vous, c'est toujours en dehors de la cote de la peinture, n'est-ce pas? Pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer aujourd'hui, mais c'est un fait. La tapisserie, d'abord, est une chose d'édition, ne l'oubliez pas. J'expliquais ça hier, justement, à un des membres du comité du centenaire des Gobelins. Je lui disais, j'étais il y a quelques semaines dans la Roure, à Essen, et j'ai demandé à visiter la maison des Krupp, dans laquelle il y a d'énormes tapisseries anciennes, et j'ai trouvé là, dans le salon de musique, toute une suite de tapisseries de Raphaël, ce qu'on appelle une tenture, c'est-à-dire 5 ou 6 tapisseries sur le même thème, si vous voulez. Eh bien, cette tenture de Raphaël porte le numéro 54. On en connaît encore, existant sur le monde, malgré des destructions, dont on connaît d'ailleurs les emplacements souvent, on en connaît encore 55. Bon, il y avait hier le centenaire des Gobelins, il y a une grande exposition de Lebrun. Eh bien, Lebrun de son vivant, qui était un des grands personnages, une espèce de directeur, intendant général de toutes les manufactures de la monarchie, etc., a vendu de son vivant 40 et 50 fois des exemplaires de ces tapisseries. Oui. C'est une chose d'édition. Les dames à la licorne, ne vous faites pas d'illusions. Elles ont été tissées plusieurs fois, et ainsi de suite.
Ah oui, ça, je ne savais.
C'est une chose d'édition, exactement comme les sculptures de Mayol. Exactement comme les gravures de Rembrandt.
Oui, mais de toute manière, ça ne s'adresse qu'à un public très restreint.
Mais c'est entendu, le gardien de passage à niveau et le mineur de fond ne peuvent pas s'offrir encore une aquarelle de Bonnard ou une gravure d'un jeune peintre qui a déjà un peu d'audience, etc. C'est l'évidence même. Et je crois que ce stade ne sera jamais atteint, n'est pas? Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous, peintres tapissiers, nous avons, si j'ose dire, la conscience un tout petit peu plus tranquille que d'autres, parce que nous mettons nos tapisseries dans des endroits où passe le mineur de fond et le gardien du passage à niveau, s'il abandonne son poste. Et ainsi de suite. Vous comprenez?
Ah, mais...
Au 15e, il y avait des centaines de milliers d'Italiens qui avaient vu les Giotto. Ouais. Tandis que maintenant, pour voir telle ou telle peinture de Bonnard ou de Braque, eh bien, c'est une histoire du diable de les voir. Elles ne pénètrent pas. Elles s'arrêtent, en somme, en route, elles sont filtrées. Est-ce que je m'explique bien?
Oui.
Vous comprenez? Oui. Elles ne sont pas du domaine public. Et il faut qu'elles attendent souvent des siècles avant de tomber dans le domaine public, c'est-à-dire dans le Louvre ou la Galerie des Offices ou tel grand musée, National Gallery à Washington, etc., etc. Bon, mais d'abord, le prix d'un million que vous avez dit, c'est déjà une tapisserie convenable, un peu. Et puis, il y en a qui
qui coûte infiniment moins qu'un million. Par conséquent, ne vous désolez pas, prenez un billet de... même un dixième. La Loterie Nationale...
Alors on n'en aura jamais.
Et puis vous, vous êtes capable d'en gagner une. Bon, maintenant d'autre part, vous m'avez parlé, le développement, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'achètent les tapisseries en somme? Qu'est-ce qu'ils les commandent? Eh bien mon Dieu, c'est à peu près comme ça se faisait, disons, au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, l'Apocalypse d'Angers, qui est en somme le plus bel exemple et le plus lyrique et le plus grand et le plus puissant de la tapisserie mondiale. Il a été commandé par le duc d'Anjou et qu'il a suspendu dans l'église de Saumur, à ce moment-là, n'est-ce pas? Et il passait des centaines de milliers de gens par année qui jouissaient de cette tapisserie, n'est-ce pas? Et il n'est pas dit que le fait d'avoir toute la journée devant vous les joueurs de cartes de Cézanne vous fera, à la fin, avoir le même plaisir que vous l'avez quand vous l'avez vu pour la première fois. Il faut toujours être sage dans ses plaisirs et dans ses voluptés. Croyez-moi, si vous aimez le pastis, n'en prenez pas 10 par jour. Vous vous ferez du mal et vous n'aimez plus le pastis très bientôt. Tandis que si vous en prenez un, bien délicatement, etc., un tous les jours ou un tous les deux jours, vous verrez combien ça devient passionnant. Oui. N'est-ce pas?
Exactement. C'est très juste.
Or, oui. Les grandes tapisseries maintenant. Enfin, écoutez, il n'y a pas d'exemple plus vivant quand même que des exemples qu'on a vécu soi-même, n'est-ce pas? C'est-à-dire des exemples personnels. Je m'excuse de personnaliser, si vous voulez, mais enfin, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Je téléphonais ce matin au Buisson pour envoyer à Cologne une grande tapisserie. J'ai une tapisserie en ce moment pour un des salons de réception de la mairie de Cologne qui mesure une centaine de mètres, n'est-ce pas? Eh bien, elle part dans quelques jours à Cologne. Mairie de Cologne, voilà les personnes qui achètent. Bon, il y en a une autre qui est partie il y a environ un an, grand hall de réception de l'Union des banques suisses à Zurich. Voilà.
D'accord.
J'en ai fait dans les 7 ou 8 dernières années des très grandes pièces. Ambassade de France à New Delhi aux Indes. L'ambassade Palais Farnèse à Rome. Lisbonne, ambassade de France aussi. Donc, les banques, les ambassades, les mairies. Vous représentez le genre de personnes qui achètent et donc qui distribuent, si j'ose dire, puisque c'est vu par des tant de personnes, n'est-ce pas? J'ai envoyé il y a environ un an pour le Memorial, c'est un monument aux morts des deux guerres, à Sydney, en Australie. J'en ai fait pour les conseils d'administration, par exemple, des grandes usines Bayer à côté de Düsseldorf, des usines Sandoz, les colorants suisses, des usines Nestlé à Vevey. Vous voyez? Bon, en ce moment, se tisse une très grande tapisserie pour Chichester. C'est une grande église qui a été détruite pendant la guerre près de Londres. Une autre pour Nîmes, une autre pour Courfèvre en Suisse. Voilà le genre de personnes. Vous voyez? En somme, cette espèce de complément qu'amène la tapisserie à la production artistique, si vous voulez, à l'audience artistique. Certains travaillent pour la collection privée, etc. Eh bien, il y en a d'autres à côté qui travaillent pour les halls de gare. Est-ce que je m'explique bien?
Parfaitement.
N'est-ce pas?
Oui, oui.
Vous voyez, par conséquent, ça complète. Ça ne lutte pas, ça ne méprise pas, ça n'écrase pas, ça complète.
Oui. Et puis, il n'est pas nécessaire de posséder les choses pour en jouir, il y a encore ça.
Mais justement, écoutez, moi je vous assure, je suis chaque fois que je vois le Parthénon, voilà déjà 2 ou 3 fois de suite j'y vais, je suis par terre chaque fois que je le vois. Je n'ai pas encore eu l'idée d'en demander le prix. N'est-ce pas?
Exact.
Et alors, ce développement a provoqué une chose, c'est que tous les peuples d'Europe se sont mis à faire de la tapisserie. Les peintres, vous voyez, en France, enfin, je vous ai donné tout à l'heure la liste, une liste très approximative de tous ces peintres qui en ont fait en France. Bon, mais nous travaillons tous en enfants perdus, en tirailleurs, sans être, en somme, architecturés, c'est-à-dire sans avoir notre ONU, si vous voulez, notre UNESCO, notre syndicat ou notre association professionnelle, etc. Eh bien, mon Dieu, maintenant, ça y est. Ça y est. J'ai rencontré un jour, au cours d'un de mes voyages, j'ai été amené à déjeuner avec le maire de Lausanne et je lui ai dit, c'est terrible. Enfin, il y a en ce moment un moyen d'expression et un moyen d'enrichissement des bâtiments que j'appelle la mise en condition. Et nous n'avons même pas un bureau, un papier à lettres, une secrétaire pour tous ces gens qui travaillent à droite et à gauche. Alors, il m'a tiré les vers du nez, n'est-ce pas? Et
Il m'a dit, tiens, il faudra que nous pensions une chose comme ça. Et puis, vous repassez quelques fois à Lausanne. Enfin, je vous fais grâce, quelques mois après, je repassais à Lausanne, il m'a invité à déjeuner. Il était là avec ses deux adjoints, un architecte. Il m'a dit, vous savez, qu'est-ce que vous diriez si nous fondions à Lausanne le Centre international de tapisserie murale? Je n'ai pas besoin de vous dire que j'ai sauté sur l'offre. Et je lui ai dit, mais écoutez, ce sera magnifique. Il y a, par exemple, le Centre mondial pour la santé. Il y a le Bureau international du travail. Il y a le centre qui se bâtit en ce moment à Paris. Oh, tenez, ou d'ailleurs, je vais faire aussi une tapisserie. Le Centre mondial des chemins de fer. Tous les pays qui ont des chemins de fer éprouvent le besoin de se structurer, si vous voulez, de se lier, de lier leurs efforts, enfin de ne pas jouer aux gosses, c'est-à-dire de jouer dans son petit coin tout seul, vous comprenez, le nez au mur. Et puis il m'a dit, la municipalité est toute prête à faire ça. Et maintenant, ça y est, c'est fait. Et le 15 au matin, je fais le grand discours d'ouverture de cette CITAM, qui s'appelle CITAM, Centre International de Tapisserie Ancienne et Moderne, n'est-ce pas, qui est créé à Lausanne. La municipalité de Lausanne a donné un terrain superbe qui correspond exactement à l'emplacement qu'occupe, par exemple, l'hôtel Crillon, place de la Concorde. Le plus beau coin. On bâtit là dans les jardins. On va bâtir un organisme avec bibliothèque, cinémathèque, secrétariat, exposition, etc. Et on ouvre, le 15, on ouvre la biennale, la première grande biennale internationale de tapisserie pour laquelle 17 nations sont déjà représentées, ont envoyé chacune des tapisseries, c'est-à-dire des tapisseries grandes, 12 mètres carrés au minimum. Il y en aura 57 venant de tous les pays du monde, depuis le Brésil jusqu'au Japon, n'est-ce pas? Il y en aura 14 françaises, d'ailleurs.
Cher Jean Lursa, le temps s'en va. Et il faut que je vous pose notre dernière question. Quel est, pour vous, le sens de la vie?
Écoutez, vous me permettrez de vous lire un tout petit fragment, il s'agit seulement de quelques lignes, d'une préface que je prépare pour une édition concernant l'Apocalypse d'Angers. Elle dit bien ce que je veux dire, elle dit bien ce que je pense, voulez-vous me permettre de la lire?
Mais on vous en prie.
Au moins vous aurez votre réponse, noir sur blanc, incontestable. Je l'avoue, rien ne me grise plus. Et cela depuis bien des années, que ces singuliers tissus où l'homme s'inscrit en faux contre tout mépris de ce monde d'ici bas, ce monde d'ici près. Je ne connais rien de plus réconfortant que ces grands pans de murs tapissés d'herbes, de chiens cordiaux, de filles qui lavent le linge et veillent sur le mouton. J'aime ce monde d'ici bas, et c'est dire que de devoir mourir m'emmerde à mourir. L'homme n'est pas fait pour être un cornard sur la terre. Le monde nous a été donné, ne jouons pas aux fines gueules. Je crois ainsi disant, boire à la source des robustes.
Cher monsieur Lursa, vous nous avez fait un grand plaisir. Permettez-nous de vous faire plaisir à notre tour en vous offrant une chanson de Marcel Saint-Martin, Le bonhomme de lune, chanté par Montero.
Ah, j'aime beaucoup Saint-Martin, c'est d'ailleurs un ami, il a vécu un tout petit peu avec moi à Saint-Céré, et comme c'est un homme que j'estime beaucoup sur tous les plans, vous me faites vraiment, en effet, un grand plaisir. Alors, Montero, à vous.
Un bonhomme de lune, ça se faufile sous les ponts, ça ne cherche pas la fortune, ça ne cherche pas l'occasion. Un bonhomme de lune, un bonhomme de lune, un bonhomme de lune, ça ne cherche pas l'occasion. Ça va, ça va, ça va, ça rêve que le ciel est joli, même quand la pluie crève les trottoirs de Paris, les trottoirs de Paris. Un bonhomme de lune, ça siffle au bord de l'eau, sans envie, sans rancune, la fleur sous le chapeau. Un bonhomme de lune, un bonhomme de lune, un bonhomme de lune, une fleur sous le chapeau. Ça va, ça va, ça va, ça rêve, les lendemains sont clairs. Ça va, ça rêve, y'a que du bonheur dans l'air, y'a que du bonheur dans l'air. Un bonhomme de lune, ça ne court pas les rues, même les soirs de lune, ça passe inaperçu. Un bonhomme de lune, un bonhomme de lune, Un bonhomme de lune, oui, ça passe inaperçu. Ça va, ça va, ça va, ça rêve, il y a du bleu partout. Ça va, ça rêve, un point c'est tout. Ça rêve, un point c'est tout. Un bonhomme de lune, ça connaît les couleurs de la terre, de la lune et le secret des fleurs. Un bonhomme de lune, un bonhomme de lune, un bonhomme de lune, ça connaît le secret des fleurs. Ça va, ça va, ça va, ça rêve, ça va toujours, ça va, ça crève quelquefois du mal d'amour, quelquefois du mal d'amour.
C'était Jean Lursa. Et qu'avez-vous fait de votre vie? Une émission de Pierre Loiselet, animée par Simone Didier, Abel Jacquin et l'auteur. Vous avez pu reconnaître au passage Un bonhomme de lune par Germaine Montero. Prise de son Max Meji et Guy Testa, assistant de production Madeleine Jay, réalisation Paul Ventre.
C'était Qu'avez-vous fait de votre vie, Jean Lursa, une émission de Pierre Loiselet, avec Jean Lursa au micro d'Abel Jacquin, Simone Didier et Pierre Loiselet. Réalisation Paul Ventre. Première diffusion, le 6 juin 1962, sur la chaîne parisienne.